Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. La Route Inconnue, votre magazine de poésie vivante, vous est présenté par votre serviteur Christophe Jubien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce bel aujourd'hui qui s'offre à nous et qui ne reviendra pas. Vous avez rendez-vous dans une petite demi-heure avec vos chroniqueurs Jean-Antonini, Jacques Morin et Jean-Claude Touzeil, mais sans plus tarder, l'invité du jour. Alors, souvenez-vous, l'an dernier, nous avons reçu Kenneth White, poète, voyageur, penseur. Eh bien, c'est un homme et un auteur du même acabit que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, sur la route inconnue. Yves Leclerc, poète, écrivain, essayiste, voyageur, moyen ermite, tel qu'il aime à se définir, à l'instar du poète chinois Po Shuyi. Alors, si j'en crois Wikipédia, Yves Leclerc s'est tourné vers la création littéraire après sa rencontre avec Yves Bonnefoy. Il a publié à ce jour une trentaine d'ouvrages divers et variés au Mercure de France, chez Gallimard et à la Table Ronde, entre autres. Parmi ses livres, des carnets de bord poétiques tout à fait captivants, dont je vous lirai des passages tout au long de cette émission. Yves Leclerc, excusez-moi d'avoir été aussi long. Vous êtes né en 1954 à Martigné-Briand dans le Maine-et-Loire. Et cette précision d'ordre géographique est tout sauf anecdotique, parce que les lieux sont très importants dans votre vie. Vous êtes de ces auteurs qui tentent d'habiter poétiquement le monde.
Oui, mentionne à la fin de chacun des textes que j'écris, que ce soit des poèmes ou des proses, toujours le lieu et même parfois, enfin, et souvent la date qui correspondent un peu aux circonstances dans lesquelles j'ai pu l'écrire. Alors pourquoi? C'est tout simple, hein. C'est parce que j'avais l'impression qu'en lisant certains écrivains, il y avait une espèce de fracture entre, on va dire, l'écriture, qui serait comme une espèce de tour d'ivoire débarrassée de toute incarnation, et au contraire, moi je voudrais, je revendique une écriture incarnée. C'est pourquoi je fais souvent d'ailleurs allusion à des références ou à des catégories chrétiennes comme celle de l'incarnation, c'est-à-dire que l'écrivain est quelqu'un qui aussi essaie d'incarner les mots. Sinon, les mots sont, comme disait le maître Chan du bouddhisme ancien qui s'appelle Lingzi, il comparait ces mots-là à des haricots secs qu'on mettrait dans la bouche de quelqu'un.
Alors, j'ai relu ces jours-ci trois de vos essais. Il y a le manuel de contemplation en montagne, bâton de randonnée et le tout dernier, Voie de disparition, publié à la librairie La Brèche. Et je me dis que c'est peut-être là, dans le secret de ces pages, que bat le cœur de votre œuvre qui emprunte à la fois la poésie, à la réflexion philosophique, à la contemplation du paysage qui vous entoure, et peut-être contemplation aussi intérieure, et aussi, et ce qui est très excitant du point de vue de l'esprit, au dialogue avec les spiritualités du monde, notamment le taoïsme, le bouddhisme Chan, vous venez de citer Lingzi, mais aussi la mystique orthodoxe et le soufisme, et finalement l'écriture, elle surgit après cette longue alchimie intérieure finalement. Le travail, il a lieu aussi avant.
Oui, comme vous avez bien résumé les orientations, de mes sources de méditation. En fait, on peut parler de méditation, c'est-à-dire de réflexion à partir des œuvres qui me marquent et qui sont comme des espèces de starters, si j'ose dire, à la réflexion. J'ai un peu parlé de ces orientations multiples de mes sources dans un livre aussi publié chez Gallimard qui s'appelle L'Orient intime. Puisque dans L'Orient intime, vous avez une section qui s'adresse un peu, enfin qui concerne, on va dire, les sources chrétiennes orientales, une section qui concerne plutôt les sources de Moyen-Orient, c'est-à-dire l'univers du soufisme notamment, dans le monde musulman, et une autre qui concerne plus l'univers du bouddhisme, notamment du bouddhisme Chan. Cela étant, il est aussi question du bouddhisme zen qu'on trouve au Japon, avec un des maîtres que tout le monde connaît, qui s'appelle Basho, qui est le maître du haïku, entre autres. Et donc, la lecture, on va dire, la méditation est un peu le support de ma réflexion et nourrit toute mon œuvre. Mais il y a quand même toujours, à la base, quand même, au début, il y a quand même toujours une sensation, une présence au monde. qui est retravaillée, qui est remise en cause et renourrie, si j'ose dire, par des lectures que je peux faire de tel ou tel auteur. En ce moment, par exemple, je suis en train de relire Martin Buber, et ça me donne l'occasion d'une réflexion sur l'autre, vous voyez, sur le tu, sur la relation aux autres et l'importance de la relation humaine dans la géographie. Et c'est peut-être un peu une chose qui actuellement me travaille un peu plus, c'est non pas simplement la relation de sensation qui me mettrait en relation avec une transcendance, mais aussi l'importance de l'autre dans le paysage. Donc il y a, si vous voulez, un peu une double aspiration. Il y a le paysage d'un côté, l'inscription dans un paysage, puis il y a l'inscription aussi par rapport au visage humain qui m'entoure. Ouais. Et je retrouve ces réflexions sur le paysage et sur le visage à travers des grands maîtres, hein, qu'ils soient des gens qui viennent de l'horizon bouddhiste, comme de l'horizon chrétien, bien sûr.
Ouais. Et aussi, je pense, moi, là, vous parlez de l'autre, du visage de l'autre, je pense aussi à Emmanuel Lévinas, qui est aussi présent, hein, dans vos pages.
Alors, Emmanuel Lévinas, particulièrement, et Olivier Clément aussi, d'autre part.
Oui.
Alors, Emmanuel Lévinas, c'est pour la part, on va dire, du judaïsme. Chez Emmanuel Lévinas, le problème est différent, c'est que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. D'ailleurs, Olivier Clément aussi, mais enfin, Lévinas, je l'ai rencontré grâce à Yves Bonnefoy, tout d'abord, et je l'ai rencontré assez tôt, et j'ai rencontré son œuvre parce qu'en fait, la rencontre, elle est surtout à travers l'œuvre après, hein, qui est absolument capitale, car j'avais l'impression, en lisant Lévinas, que j'ouvrais une espèce de brèche, on pourrait dire, une grande faille dans un grand rempart, une sorte de barrage qui était contenu par des philosophes comme Heidegger, etc., auxquels j'étais très sensible à l'origine, par ma lecture de Bonnefoy. Car la lecture de Bonnefoy m'a amené à lire notamment Heidegger. Et après, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait toute une part de la philosophie qui était attachée au visage humain. Après le 20e siècle qu'on a connu, c'est-à-dire notamment la faillite qui a été le 20e siècle avec le nazisme, toutes les dictatures qui ont justement bafoué le visage humain.
Oui.
Et ce visage-là, d'ailleurs, il suffit de lire les arts, hein, pour s'en rendre compte, la peinture notamment, on voit très bien qu'il y a une dislocation du visage et que c'est pas par hasard si l'artiste il est le témoin de cette espèce de destruction du visage humain, et précisément chez Lévinas, comme chez Olivier Clément, philosophe orthodoxe, chrétien, on retrouve cette prépondérance du visage humain.
Ouais.
Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup maintenant. C'est un peu aussi une réponse, si vous voulez, au risque qu'on trouve, risque entre guillemets, hein, qu'on trouve dans le bouddhisme, c'est une sorte de désincarnation et d'une espèce de mise à distance du visage humain.
Oui.
Ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'il y a quand même une grande compassion chez les bouddhistes, et même chez Basho, par exemple, quand on fait attention à ses textes, il est extrêmement attentif aux autres, c'est-à-dire bien un petit enfant qu'il rencontre sur la route, là, qui demande à manger, enfin, etc., dont je parle d'ailleurs dans un de mes textes, que tel visage de femme ou tel vieillard qu'il aperçoit aussi sur son chemin. Donc, il me semble que dans le monde dans lequel on est, encore plus, je pense que c'est encore plus pour ça que j'y suis sensible, avec l'apparition des nouveaux médias comme notamment Internet, etc., qui apportent certes beaucoup de bonnes choses, je pense que la présence de l'autre, le visage humain, l'échange avec l'autre est extrêmement important,
oui.
Car le lien tend à disparaître malgré tout.
Oui.
Alors, c'est un peu mon inquiétude.
Oui, je voudrais qu'on rassure aussi nos auditeurs, parce qu'il y a derrière toutes ces références littéraires, spirituelles, picturales aussi, musicales qui jalonnent vos livres, une quête incessante de la nudité, de la simplicité, de la justesse, tant sur le plan existentiel, hein, on sent que la poésie vous oblige, et que sur le plan de l'expression poétique. Il n'y a pas chez vous de séparation entre l'homme et l'artiste, et j'ai le sentiment que les deux passent leur temps à se faire la courte échelle, si j'ose dire.
Oui, c'est tout à fait ça. Et si vous voulez, le seul indice pour moi, c'est que je sens que comme une écriture sonne faux quand elle n'est pas simple.
Oui.
Et je peux, alors si vous voulez, je sens très bien que, bon, par le fait de l'habitude d'écrire et puis de l'habitude de lire, qu'on peut partir dans un discours un peu, j'allais dire, systématique, personnel, ou qui se complaît en lui-même, et on arrive à produire des belles phrases comme ça, au kilomètre, hein, sans problème, mais finalement on tourne en rond. Tandis que dans l'écriture simple, il y a une espèce d'ascèse, d'ailleurs c'est le sens du mot premier, hein, c'est un exercice spirituel, qui est une espèce de dénudation, et qui fait que on arrive à l'essentiel, en quelque sorte, c'est-à-dire à des choses, comme vous dites, hein, simples. Par exemple, dans le manuel de contemplation, c'est très simple, hein, il y a trois parties. Il y a une partie qui concerne le matin, une partie qui concerne le midi, et une autre qui concerne le soir. Et mon but a été d'épingler des moments un peu comme ça clairs, on va dire de bonheur, hein, finalement, dans la journée.
Oui.
Et d'en tirer une réflexion non seulement horizontale, parce que je pense qu'il y a l'horizontalité est assez facile à cerner, mais aussi verticale.
Oui.
Et je pense que c'est aussi une dimension qui nous manque beaucoup dans notre société, malgré tout matérialiste, qui nous apporte certains conforts, une aisance, enfin, pour la plupart des gens, parce que soyons aussi mesurés dans nos propos. Mais je pense qu'il manque aussi souvent dans notre monde une verticalité. Et finalement le sens de la vie. Et c'est un peu l'objet de ma réflexion perpétuelle de livre en livre, c'est celle de trouver du sens dans la nuit, dans la ténèbre. Cela dit, avec aussi une grande défiance à l'égard d'un certain monde intellectuel qui s'est longtemps complu dans une espèce de cynisme un peu pessimiste. Et c'est un peu mon ennemi, enfin pas mon ennemi, mais c'est un peu une facilité contre laquelle je ne cesse de lutter. Et ça, c'est d'ailleurs l'exergue même du dernier livre qui est paru chez Gallimard, qui s'appelle Cours s'il pleut, le dit explicitement, c'est-à-dire qu'il s'agit pour moi, ma tâche, c'est de trouver de la lumière, pour moi, mais aussi pour les autres, hein, surtout, non pas que je sois un guide, hein, parce qu'il y a un effacement évident, mais je suis là pour, non pas noircir le monde, mais essayer de trouver la petite lumière un peu qui fait le sens de la vie.
Ouais. Alors, si on doit vous chercher des maîtres, il me semble que c'est quand même... Alors, on a parlé, évidemment, du christianisme oriental, mais c'est aussi en Chine qu'on a des chances de les trouver. Moi, on peut parler de Lao Tzu, de Chuang Tzu,
oui.
Du poète Han Shan, mais je pense que vous faites souvent référence à Po Shu Yi. Vous dites que voilà, c'est un moyen ermite, et vous dites que en quelque sorte vous êtes vous aussi un moyen ermite. Alors qui était Po Shu Yi et pourquoi l'avez-vous choisi entre guillemets, bien sûr, comme modèle au départ peut-être?
Alors comme vous dites, c'est l'un des poètes que j'aime le plus, hein, parmi les poètes on va dire du bouddhisme Chan antique. Il y a un autre poète aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Wang Wei. Hein. Bon, il y a Han Shan, mais si vous voulez, il y a dans la posture de ces trois poètes, là, Han Shan, pour simplifier, c'est aussi Li Po, il y a aussi Tu Fu, enfin, etc. Mais pour simplifier parmi ces trois-là, la posture poétique qui me paraît la plus satisfaisante est celle de Po Shu Yi. Pourquoi? Parce que Po Shu Yi se dit moyen ermite, en effet. C'est-à-dire que ça veut, c'est très simple à comprendre, c'est que lui, il n'a pas cherché à vivre en ermite absolu, c'est-à-dire en se retirant totalement du monde, comme beaucoup de poètes Chan l'ont fait, hein, ont été tenté de le faire. Mais lui, il a choisi une sorte d'état intermédiaire, c'est-à-dire que il vit une sorte d'ermitage intérieur, de réflexion, de méditation, de paix intérieure, avec sa famille, avec les gens qu'il aime, avec les maîtres qu'il visite de temps à autre. Donc il est retiré du monde tout en étant dans le monde. Et ça correspond exactement à une forme du bouddhisme Chan qui consiste à dire que l'éveil, parce qu'on l'appelle comme ça dans le bouddhisme, l'éveil, c'est-à-dire l'éveil, on peut le comprendre de tant de manières, on peut le transposer sur le mode d'autres religions. Hein. Enfin, l'éveil, c'est-à-dire le fait de retrouver la source, la lumière en soi, pour simplifier, eh bien, c'est non pas l'objet d'exercices assidus et réglés par un maître de telle heure à telle heure, mais c'est au contraire une quête quotidienne qui peut se faire au milieu du monde, aussi bien que en étant retiré du monde. Ouais. Et donc, c'est pourquoi il se dit moyen ermite.
Et c'est une quête qui ne va pas sans une certaine indolence aussi chez les poètes taoïstes, non ?
Oui, alors il y a une valeur, si vous voulez, fondamentale qu'on retrouve aussi, non seulement dans le taoïsme, mais aussi chez les épicuriens, chez les stoïciens, des grecs et des latins, mais aussi dans le christianisme, hein, je pense aux moines chrétiens qui sont... Parce qu'en fait, il y a une grande parenté hein, entre les religions. Je ne vais pas tomber dans un syncrétisme facile, mais il y a quand même des intuitions qui sont étrangement... qui coïncident étrangement. Et donc, pour revenir à ce que je disais, la question que vous me posiez, il y a en effet une valeur fondamentale qui s'appelle le wu wei dans le bouddhisme ancien, qui est le non-faire, le non-agir. Mais c'est un mot très très difficile à traduire dans notre Occident affairiste et surtout dans le monde, si vous voulez, un peu, on va dire, par rapport notamment au capitalisme anglo-saxon. Car nous sommes dans un monde où les affaires sont extrêmement importantes, hein, où la négoce, la comptabilité, la gestion, l'économie au sens anglo-saxon, hein, pas au sens grec du terme, sont importants. Et or, ces gens-là s'inscrivent totalement à l'envers de ce monde-là. C'est comme on dit, hein, on dit que Pokuyi c'est un poète sans affaires, c'est-à-dire sans occupation, sans divertissement, au sens pascalien du terme, sachant que tout peut être divertissement. Et l'éveil, c'est précisément se convertir à une espèce de lumière intérieure, c'est un retournement de l'être à la simplicité, alors au vide, à Dieu, après chacun a une réponse ou un mot ou un nom qui est à mon avis, enfin à mon humble avis, hein. Je pense que Dieu a plusieurs noms, plusieurs visages et que chacun l'appréhende à sa manière, avec son langage, avec ses aveuglements et avec ses lumières aussi.
Ouais. Celui que vous aimez, je pense, c'est le miséricordieux, non ?
Ah oui, 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 tout à fait, oui, oui. Alors si vous voulez, là, si on prend la réflexion chrétienne, je suis quelqu'un qui est extrêmement marqué par la lecture des philosophes orthodoxes russes, Berdiaev, notamment. Ça fait partie des valeurs sûres, si vous voulez. J'ai remarqué que quand dans les périodes, on va dire, plus sombres que je peux traverser, comme tout individu, sans être tombé dans le pessimisme absolu, hein, mais j'ai remarqué que les réponses du christianisme orthodoxe sont extrêmement fortes. Hein, il y a une force de lumière dans la nuit la plus grande. Et c'est pourquoi donc on retrouve ce que vous dites, le Dieu miséricordieux, c'est-à-dire un Dieu... qui accueille finalement, hein, un Dieu qui console, qui de la solitude et du désastre hein, dans lequel l'homme peut s'éprouver au monde. Car c'est vrai qu'il y a un grand sentiment de solitude qu'on retrouve aussi bien dans le bouddhisme. Hein, chez Pokuyi, il y a une réflexion extrêmement profonde sur la solitude humaine. Et je pense que le Dieu miséricordieux est une réponse possible à cette solitude. Dans le bouddhisme, je pense qu'on on va retrouver plutôt le Tao. C'est une manière de, enfin la voix, une manière de nommer l'innommable. Quoi. Ouais.
Alors, vous aimez aussi la nature d'un profond amour, avec une dilection particulière pour ses plus humbles manifestations, les moineaux, les fleurs des champs, les plantes potagères, les nuages blancs comme ceux de Wang Wei. Vous êtes vraiment sensible aux plus infimes variations de la lumière, dans une seule journée par exemple. C'est une poésie qui finalement s'adresse à nos sens, un peu comme le haïku japonais, que vous aimez beaucoup par ailleurs.
Oui, oui, alors si vous voulez, je suis un enfant de la campagne, déjà, hein. Donc j'ai une sensibilité, on va dire presque atavique, enfin, qui est inscrite dans mon corps, et je ne vis, enfin bon, j'ai la chance de pouvoir ne pas vivre en ville, je précise. Et je pense que je parle des grandes villes, hein. Je pense que je souffrirais à vivre dans une grande ville. J'ai besoin du rythme des saisons, j'ai besoin de la présence des arbres, des oiseaux autour de moi, et j'ai besoin du contact avec le dehors, hein. C'est un contact quotidien encore une fois, je suis un peu privilégié parce que je peux les avoir. J'ai le temps et j'ai le lieu pour pouvoir jouir de ces instants de communion avec la nature. Alors le haïku, bien sûr, est une forme privilégiée de cet accord avec des sensations et des saisons, parce que le haïku, c'est très 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 tributaire, comme vous le savez aussi bien que moi, des saisons. Et l'avantage du haïku aussi, c'est que c'est un poème, si je veux dire, de poche, c'est le plus petit poème du monde, qui a l'extrême avantage de refuser tout verbiage, et qui se prend, enfin comment dire, qui s'écrit en un fragment de seconde, hein, parce que c'est un peu un moment d'illumination, et qui peut aussi se consigner sur un carnet de manière très simple, parce que ça fait trois vers, hein, comme vous savez. Donc c'est le haïku est une forme sans doute très très aboutie d'adéquation parfaite entre l'expérience d'une présence, enfin une sensation, et l'écriture.
Ouais. Est-ce que vous cherchez, vous, eh bien, finalement, l'illumination, le satori, ou pour employer un terme du christianisme orthodoxe, la déification?
Alors, si vous voulez, dans un premier temps, je pense qu'il y a, une expérience de l'illumination modeste, hein, je précise. Hein, c'est pas les illuminations et délirante, hein. C'est simplement l'éveil secret quotidien, avec bien sûr une sensation d'être pris dans un mouvement du monde qui, alors si on suit en effet la philosophie chrétienne orthodoxe, qui conduit l'homme vers une déification, une sanctification de la nature. Donc il y a le sentiment d'appartenir à un grand fleuve qui emmène le monde vers son sens final.
Alors, ces dernières années, on parle beaucoup de nature ensemble, là, aujourd'hui. Le rapport de l'homme à la nature est devenu un sujet politique dont l'enjeu est de taille, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que d'assurer la survie de l'être humain et de tant d'autres espèces menacées de disparition. Finalement, il me semble que vous avez quand même des choses à nous dire là-dessus. Votre poésie, en tout cas, des choses à nous dire là-dessus, sur les relations que nous devrions peut-être tisser avec la nature et les espèces vivantes.
Oui, je pense qu'il y a une grande fracture, non seulement entre les êtres, hein, comme je vous disais, je parlais du lien social, du lien fraternel, qui existe, hein, par ailleurs, parce que comme tout phénomène négatif, il y a une réaction aussitôt généralement extrêmement vive, et c'est ce qui se passe actuellement, à mon avis, dans le monde. C'est pour ça que je suis pas vraiment pessimiste, parce que dans le monde dans lequel on est, on voit très bien qu'il y a des fractures fatales dans un premier temps, enfin qui peuvent paraître fatales, dans le rapport avec les autres, dans le rapport, parce que c'est la même chose, dans le rapport avec la nature. Mais il y a aussi des réponses qui sont déjà apportées. On voit bien que les gens commencent à réfléchir, à aborder ces questions-là dans leur quotidien, et c'est ça qui est important, et que le discours politique est une chose, mais l'action quotidienne, toute simple, dans la nourriture, dans la manière de vivre son quotidien, dans la manière de vivre avec les autres, dans la manière de regarder le monde qui l'entoure, c'est là que commence la véritable révolution, hein. La révolution, elle est d'abord dans cette espèce de conversion existentielle quotidienne, et non pas dans un grand discours politique qui se contente un peu de belles paroles.
Il nous reste une ou deux petites minutes. Il y a une notion que j'aime beaucoup chez vous et qui a donné d'ailleurs son titre à l'un de vos livres, c'est « bout du monde ». Bout du monde, bout au pluriel. Vous dites que partout, Partout, il y a des bouts du monde. Est-ce que vous pouvez éclairer ce concept, cette notion de bout du monde? C'est quoi un bout du monde pour vous?
Alors, bout du monde, c'est-à-dire que, ça, bien sûr, il y a un petit jeu de mots en même temps sur l'expression, puisque les bouts du monde, on dit, allez, quelqu'un, tu vas au bout du monde, c'est-à-dire tu vas très loin, tu es allé dans des lieux merveilleux où personne n'est jusqu'à là allé. Et en fait, les bouts du monde aussi, pour moi, sont, comme sous-entend votre question, sont des lieux extrêmement quotidiens. Mon premier recueil s'appelait L'or du commun, à l'apostrophe OR. Comme si l'or du commun était hors du commun, HORS. Le jeu de mots était sous-entendu, comme vous le pensez. Et les bouts du monde, donc, sont comme des espèces de fragments du monde, et dont nous n'aurions que les bouts, et dont, justement, on en parlait, le poète aurait peut-être à replacer les morceaux comme une espèce de puzzle, hein, qui serait un peu désarticulé, et finalement, ça serait à chacun de reconstruire son bout de puzzle et de finalement de se rendre compte qu'il appartient à un tout, à l'un, à Dieu, enfin à une création qui se construit, se déconstruit, mais va toujours vers un sens. Et c'est pour ça que, encore une fois, je reviens au christianisme orthodoxe, parce qu'il y a quand même l'idée d'un monde qui part d'un paradis, qui passe par la chute et qui retrouve un second paradis, hein. Et c'est un peu l'image que je retiens de ce fleuve de morceaux de bout du monde qui, en fait, se reconstruit, forme une espèce d'icône divine si on arrive à en retrouver les différents fragments.
On finira par y arriver. Yves Leclerc,
oui, il faut l'espérer, parce que c'est un peu finalement le message. Sinon, à quoi bon écrire, hein, si c'est pour donner du désespoir? Je veux dire, on a toutes les raisons de trouver du désespoir, ouais, toujours, mais ce qui est beaucoup plus difficile, mais qui est beaucoup plus intéressant aussi, et beaucoup plus positif, c'est de enfin, non pas, on n'est pas des sauveurs, mais enfin, chacun est à sa part pour sauver un peu de la beauté du monde. Et comme je pense que cette beauté finira par l'emporter.
Yves Leclerc, un grand merci à vous. On va rester en votre compagnie avec quelques extraits de vos livres. Un grand merci à vous.
Merci beaucoup.
J'ouvre le jour de l'an avec ce haïku de Teiji. On les balaie, puis on les laisse, les feuilles mortes. Ce sont les mots qui me viennent à l'esprit en regardant l'état du jardin ce matin. J'ai balayé, la semaine dernière, ou l'an passé, les feuilles jaunes flammes du châtaignier. Le vent semble se plaire à les disperser. Bien, je laisse faire le vent. Sans doute est-il plus sage. Je le laisse s'amuser avec les feuilles comme un lecteur retournerait les pages d'un cahier de brouillon. Mais là-bas, dans ce cahier de brouillon, j'aperçois soudain une feuille rousse qui sautille. C'est l'hiver, la visite du rouge-gorge. Comme chaque matin, à la fenêtre, le petit soliste se trouve au rendez-vous, boule orangée qu'ébouriffe la misère de ce vent de janvier. Il grelotte, se lait, chante à mon nuit, frère capucin des ordres mendiants. Makoto Kemoku m'envoie depuis le Japon son journal des années d'école. Je note ces deux haïkus qui tombent à point. Vœux du nouvel an, à ceux qui sont mal écrits, va ma préférence. Vœux du nouvel an, à ceux qui sont mal écrits, va ma préférence. Oiseau de passage, tandis que je suis sorti, brûlé de vieilles lettres. Oiseau de passage, tandis que je suis sorti, brûlée de vieilles lettres. À vrai dire, pour remplir mes journées, je recherche plutôt le contraire d'un agenda, littéralement les choses qui doivent être faites. M'intéresse en réalité l'inagenda, tout ce qui échappe précisément à l'agenda, ou à tout le moins tout ce qui se glisse d'inagenda dans l'agenda, comme une brèche, l'extraordinaire de l'ordinaire. Je veux désormais un bon emploi du temps perdu, une oasis prospère comme l'antique Palmyre. L'art de la vie du poète, note Thoreau dans son journal, c'est d'être occupé sans avoir rien à faire. Hélas, certains agités se chargent vite de vous occuper, de vous remplir votre emploi du temps. Je ne parle pas ici de la juste part de service que l'on doit à autrui, pour mieux se dissimuler l'inanité de leur farcesque vacation. Montaigne. À 20 km à vélo. Direction le camp de Rome, improvisé dans le terrain vague, derrière la station d'épuration désaffectée. Une jeune romanichelle, tout ambrée dans sa jupe à cotillons moulante rose bonbon, sort d'une roulotte, rejoint la mère aux seins énormes qui étend le linge sur une haie minable. Un panier en osier inachevé est posé là, hérissé de grandes tiges attressées. La jeune femme s'est maintenant accroupie près d'un feu qui rutile dans les mèches rebelles et admirables de sa tignasse sauvage et crie dans sa langue roumaine des mots de la terre que je ne comprends pas, mais qui me fascinent. Au pied du mur de parpaing, le cadavre d'une merlette. L'aile chinée est restée déployée dans l'herbe, comme arrêtée en plein vol. Un papillon blanc posé dessus s'en est envolé quand je m'en suis approché, comme s'il en était l'âme. Demeure, dans l'évidence de l'instant, l'abricotier dépenaillé dont les fleurs ont brûlé sous le gel et pourri sous les averses répétées, la densité minérale de la lumière d'avril et cette branche de passe crassane toute festonnée de fleurs, lourd cotillon où volette la fauvette, la vive impertinence de son battement d'ailes, de son écriture preste et solaire, son chant bref, précipité d'un trait, strophe rapide, vibration suraiguë dans le grand chaos du monde auquel il t'appartient de prêter un tant soit peu l'oreille. La glycine en fleur en baume, de son encens mauve et sucré, la ruelle pentue qui conduit au ponton bombé au-dessus de la rivière laquée. On croirait marcher dans une estampe japonaise. C'est à deux pas d'ici. « Où vas-tu ce soir ? » ?»« Je vais m'asseoir près des pieds de tomates et du prunier au fond du jardin. J'ai besoin de cet entretien silencieux. » Le prunier neige au moindre souffle. sensible aux plus infimes vibrations de l'air, à sa musique invisible. L'univers est d'essence musicale, et nous ne percevons qu'une infime partie de ses ondes. L'ombre de ces toits sauvages qui me passe bien au-dessus de la tête. Comme j'envie son pinceau. Pétale blanc dans mes cheveux, je suis décoré de l'ordre du prunier. Pétale blanc dans mes cheveux, je suis décoré de l'ordre du prunier. Les anciens poètes japonais et chinois partaient en pèlerinage sur les chemins et sur les routes, rien que pour contempler les pruniers, cerisiers ou pêchers en fleurs, trois espèces que tu as plantées dans ton jardin. Ainsi, Ryokan, ermite zen du XIIIe siècle. Sur la branche encore aujourd'hui, mais plus demain, les fleurs du prunier. Sur la branche encore aujourd'hui, mais plus demain, les fleurs du prunier. Non, ne tarde pas trop, la floraison est éphémère.
Et voilà, c'était donc Yves Leclerc que je vous conseille vivement de lire ou de relire. Rendez-vous à présent avec Jacques Maux pour sa revue des revues mensuelles. Jacques Maux qui est directeur de publication et ce depuis de très nombreuses années de la revue Décharge, notre partenaire avec également le site de Cécile Guivarch, la revue en ligne Terraciel. Tout de suite Jacques Maux pour sa revue des revues mensuelles.
Revue du mois audio numéro 31. C'est le numéro 50 de la revue Opala, point d'exclamation, qui a connu pas moins de 4 directeurs depuis sa fondation en 1999. Alain Gabriel Monod, le rédacteur en chef actuel, le dédie, ce numéro, aux victimes du 13 novembre, la belle jeunesse assassinée. Cette revue table sur 3 vastes domaines d'élection, littérature, débat, création, et affiche pour sous-titre La Bretagne au monde. Preuve en est, c'est la Polynésie qui est la culture invitée. Jacques Bell Ottenheim, spécialiste de Gauguin, explique l'histoire de Tahiti et des îles voisines, texte d'époque à l'appui. Il évoque surtout sa découverte dans l'état de nature. Appelée utopie, fortunée ou nouvelle citerre, les visiteurs sont éblouis par l'intensité des lumières et la profusion des couleurs. On peut citer pour les plus connus Cook, Dumont-d'Urville et Herman Melville. Roberto Salazar donne ensuite une étude sur le roman polynésien contemporain en prenant en compte 4 ouvrages, Les Immémoriaux de Victor Segalen, L'île des rêves écrasés de Chantal Spitz sur Tahiti et davantage en Nouvelle-Zélande, The Whale Rider de Witi Imi Aira et Wolf de Hamish Clayton. On est au cœur du problème avec la colonisation anglaise d'abord, puis française ensuite. Une langue obligatoire contre les langues vernaculaires et la tradition orale, on pense bien sûr en parallèle au breton. Une religion plaquée sur les croyances ancestrales, un pouvoir économique forcé. La question de l'identité polynésienne est sans cesse au centre de ces romans, mis en lumière d'une façon très précise par Roberto Salazar, qui dans un second temps, avec Coralie Gourdon, livre toutes les données de la langue tahitienne qui se révèle à la fois riche et complexe. À noter que son enseignement a cessé d'être obligatoire depuis 2004. Enfin, l'artiste invité est Andreas Detloff, allemand d'origine. Il s'est installé à Tahiti depuis 1989. Il est interrogé par le philosophe Ricardo Pineri, et indique que les artistes polynésiens ne connaissent pas forcément Dada, mais s'inspirent, Internet oblige, du street art. Suivent des photos de ses œuvres tout à fait réjouissantes, où il joue à la fois sur des matériaux connus de tous, comme des pneus en couverture, des traditions ancestrales des îles, et d'un regard ironique sur le monde contemporain, c'est le point fort du numéro. Suivent des sonnets réguliers et savants de Jean Cloarec, membre du comité de rédaction, ainsi que des poèmes de Jean-Michel Maubert. Te porter sainte et impure comme on porte une ombre à la verticale de nos vertèbres. En alternance avec des nouvelles de Thierry Conck sur le Japon lointain et de Christian Le Goff sur la Bretagne profonde. C'était l'âge d'or de l'autarcie, tout un petit peuple était passé de la misère à la subsistance. Ce dernier a écrit un ouvrage sur des écrivains cyclistes, transition toute trouvée pour parler de Jean-Pierre Nézélec, chargé de l'héritage littéraire de Daniel Colobert, 1940-1978. Il est question d'un voyage en Indonésie en 1970 qu'elle fit en compagnie d'un couple norvégien, lequel par le hasard et la recherche a été remis à jour par Jean-Pierre au travers d'un journal qu'il tenait, et l'on peut lire en parallèle le déroulement du voyage à partir de Singapour d'un côté et les pages d'écriture de Daniel Colobert de l'autre. Le bloc du mot se désagrège, un effritement, nécessaire, les significations affluent de partout. D'autres pages encore et d'autres rubriques concernent la Bretagne comme la création de l'association des Amis d'Auguste Dupuy, un artiste vivant à Vannes, José Tellier, ou bien un livre à consulter sur Internet, Le voyage de Saint-Brandan, roman breton de la fin du 8e siècle. Le cahier critique achève la livraison avec le pêle-mêle du rédacteur-chef, des notes de lecture et des comptes rendus plutôt centrés sur la Bretagne. Opala est une revue consistante, c'est le moins qu'on puisse dire, intéressante à plusieurs niveaux, puisque son champ d'investigation est multiple. 12 euros, 13 rue du Pontigou, 29 000 Quimper. À la prochaine fois.
Vous retrouverez Jacques Mau pour sa revue des revues audio de la rentrée au mois de septembre 2016. Nous le laissons se reposer pour la durée de l'été. Vous savez, nous aimons beaucoup le haïku sur Radio Grand Ciel, particulièrement dans la route inconnue. C'est pourquoi je vous propose de rejoindre Jean Antonini, le grand spécialiste français du haïku, fondateur de l'association francophone de haïku. C'est sa chronique mensuelle. Il nous familiarise avec les arcanes de cette poésie brève née au Japon, mais qui a fait son nid dans le monde entier désormais, et c'est tant mieux.
De toutes les qualités que le poète japonais Matsuo Basho a tenté d'apporter au haïkai durant son existence, Karumi, la légèreté, est celle à laquelle il s'était attaché à la fin de sa vie. Son traducteur en français, René Sieffert, prétend que les nombreux voyages qu'il fit au cours de ces 10 dernières années avaient pour but non seulement de visiter des sites poèmes, Utamakura, ainsi que les groupes de poètes amis disséminés au Japon, mais aussi atteindre un certain détachement. Nous vivons le plus souvent en sédentaire. Nos sentiers tracés et retracés facilitent les choses, apportent stabilité, mais le haïku et tout poème naît du surgissement, du déséquilibre, de l'étrangeté. Un mode de vie nomade est certainement plus propice à ces qualités. Ainsi, le poète est-il, d'une certaine façon, un nomade sédentaire. La légèreté Karumi était liée pour Basho à deux éléments importants, nouveauté et improvisation. Quand il dit à ses amis poètes « Ce qu'il en est du pain, apprends-le du pain. Ce qu'il en est du bambou, apprends-le du bambou. » Il exprime non seulement l'idée que le poème vienne au poète de l'environ, mais aussi que ce lien direct court-circuite d'une certaine manière la connaissance poétique et toute la culture que chaque poète transporte avec lui. Furuikeya kawazu tobikomu mizu no oto. Vieil étang, un grenouille plonge, bruit de l'eau. L'écriture de ce hoku, premier verset d'un poème collectif, ne s'est pas faite en une fois. Basho cherchait le dernier élément qui aurait pu être mention de rose jaune, souvent lié à la grenouille dans la poésie japonaise. Le choix final de Mizu no Oto, bruit de l'eau, par Basho, vient illustrer la légèreté Karumi. Mizu no Oto ne comporte aucune allusion, aucune référence. C'est simplement ce qui a lieu quand une grenouille plonge, un bruit dans l'eau. Basho disait que l'écriture de ce poème avait par la suite orienté sa pratique vers la légèreté d'un poème plus proche de la nature et moins alourdi de références culturelles. Dans un autre poème, Basho évoque cette légèreté qui efface la poussière des références culturelles. Inazuma ni satoranu hito no totosayo. Admirable, celui qui, voyant un éclair, ne pense pas « la vie est courte ». Ce haïku pourrait passer pour un précepte zen. Quand je vois un éclair, je vois un éclair. Peut-être est-ce cette légèreté du haïku qui donne à son écriture une apparence de facilité. Un poème si léger peut être pratiqué sans connaissance particulière. Mais cette légèreté n'interdit pas pour autant d'évoquer ses pensées. Samazama no koto omoidasu sakura kana. Tant et tant de choses me reviennent à l'esprit, fleur de cerisier. Car les lectures que l'on a pu faire depuis des années n'effacent pas la légèreté des fleurs, sakura.
Light Up de Chieko Mori, musicienne japonaise fort talentueuse que nous écouterons en fin d'émission, l'émission qui n'est pas tout à fait terminée puisque vous avez rendez-vous sans plus tarder, toute affaire cessante, avec Jean-Claude Touzey. Jean-Claude Touzey, poète, animateur du blog Biloba, je vous renvoie à ce blog excellent, et puis également créateur des Journées du Durset, du Printemps de Durset, un festival de poésie qui existe depuis déjà de fort nombreuses années et qui se porte bien et qui a valu au village de Durset en Normandie l'appellation Durset, village en poésie, décerné par le Printemps des Poètes. Chapeau, monsieur Touzey.
Alors, bonjour. Aujourd'hui, donc, lecture de poèmes de Michel-François Lavore, qui, comme chacun sait, un poète qui dirigeait la revue Trace pendant un demi-siècle, qui a disparu il y a 2 ans, je crois. Alors, l'éléphant fantastique. Il jouait dans la classe avec les mots et les images. Il apprivoisait peu à peu le langage. Il faisait des charades, des rébus, des comptines, des bourrimées, des acrostiches et des calligrammes. Il dessinait tout un bestiaire d'oiseaux quadrupèdes, velus ou bicéphales, des martoraux et des cerfs-feuilles, des serpents, des escargots-rilles. C'est ainsi qu'il est né, avec sa trompe longue de papillon et ses huit pattes frêles, l'éléphant-tastique. Le chamois. Prendre pied. Côtoyer le friable. Tutoyer le vertige. Jeter un grappin d'audace, un lasso de chance au sommet de la démesure. Tenter le téméraire. Funambuler sur l'arête du risque. Jeter une tête de pont au bord de l'impossible. Échapper au péril par un autre danger. Se jeter vif au travers de la mort. Voilà deux poèmes extraits de Argos. Et puis je vous lis deux ou trois haïkus, parce que c'était aussi un fidèle de ce genre. Comme celui-ci, le héros est mort à la première ligne du roman que je voulais écrire. Nymphe innocente et nue, comme une corde à linge sans chemise. N'écris jamais brouette au milieu d'un poème sans l'avoir roulée pleine. Les moutons dans la neige broutent la vie sauvage, à même le brouillard. Voilà, et puisqu'on est dans la écoute, vous en ai sélectionné 4 ou 5 de ma pomme. Le dos du dompteur, les animaux dans la cage le mangent des yeux. Si je téléphone, c'est pour te dire que j'ai bien reçu ton mail. Rêve d'anarchiste, abolition de la loi de la pesanteur. À tort à travers, il saute, il croit jusqu'au ciel, le poulain tout neuf. Le clown à la foule. « Ça va, les petits-enfants ?»« Oui !» hurlait mon père. Voilà pour aujourd'hui.
Vous retrouverez donc Jean-Claude Touzeil et Jean Tonini à la rentrée pour la première édition de La Route inconnue. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la dernière édition de l'année. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Vous restez à notre écoute. La danse du kimono, Chieko Mori.